VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, excellent réveil en notre compagnie sur VOA Afrique. Au micro, Morgane Guiriec et Annette Burson. À la une ce matin.
Crise électorale au Burundi, les pays d'Afrique de l'Est préconisent un report des élections d'au moins un mois et demi.
Au Mali, Al-Qaïda au Maghreb islamique revendique les deux attaques contre la force onusienne la semaine dernière.
Dialogue politique en République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila débute les consultations aujourd'hui.
Et comme tous les matins, nos rendez-vous habituels, la Minute Éco et le Journal des Sports. Mais d'abord, le journal.
Crise électorale au Burundi, les pays d'Afrique de l'Est préconisent donc un report des élections d'au moins un mois et demi. Bujumbura s'est dit ouverte à cette proposition, formulée hier par les chefs d'État de la région lors d'un sommet à Dar es Salaam. Mais elle a été jugée insuffisante par l'opposition, qui proteste contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Sujet que les chefs d'État se sont d'ailleurs abstenus d'évoquer. Davantage sur le Burundi en seconde partie de cette émission.
La force onusienne prise pour cible au Mali, Al-Qaïda au Maghreb islamique revendique les deux attaques contre la MINUSMA la semaine dernière. C'est ce que rapportait hier l'agence mauritanienne Al-Akhbar, qui a été contactée par Abderrahman Al-Azawadi, un porte-parole d'ACMI. L'organisation terroriste a ainsi revendiqué l'attaque à la roquette du 25 mai dans le nord du Mali et l'explosion au passage d'un convoi de la MINUSMA le 28 mai sur l'axe Taïrdje-Tombouctou. D'après l'AFP, l'attentat a fait 3 morts parmi les casques bleus au lieu des 3 blessés originaires du Burkina Faso précédemment annoncés.
Mais l'insécurité persiste au-delà des régions du nord du pays. Dans les grandes villes, les bandits, coupeurs de route et délinquants empêchent la population de vaquer paisiblement à ses occupations. Et c'est dans ce contexte que le ministre chargé de la sécurité intérieure a été interpellé à plusieurs reprises par les députés. Le point avec Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
Actuellement, les patrouilles des forces de sécurité sont multipliées, mais sans effet, nous dit cet habitant de Bamako.
L'insécurité bat son plein à Bamako. On se fait agresser à tout moment. Et le problème le plus saillant est que les hommes en uniforme nous attaquent souvent, attaquent beaucoup de personnes avec des armes à feu.
Certains quartiers de la capitale malienne sont infréquentables.
Des gens qui sont paisibles dans leur quartier, devant leur porte, on s'attaque à ceci, alors qu'on sait bien que dans les endroits où isolés, où les forces armées doivent intervenir, ils ne font pas là-bas. 19 à l'AC 2000, on retire les motos des gens. Et ça se fait au vieux aussi. Alors que les forces de sécurité tournent dans les alentours, ils ne font pas le travail comme ça se doit, sincèrement.
À côté de ce tableau sombre, certains Maliens se réjouissent des démantèlements de certains grands réseaux et des coupeurs de route.
Il y a certains réseaux de malfrats qui ont été démantelés sur l'ensemble du territoire malien. Il faut reconnaître aussi que chaque fois qu'on met un système en place, les bandits ou les trafiquants, ils mettent en place leur contre-stratégie.
Les ministres de la sécurité intérieure parle de mobilisation autour des forces de sécurité. Général Sada Samake.
Sans qu'il n'y ait pas une mobilisation générale autour de ceux qui ont la charge de gérer la sécurité de notre pays, on n'arrive pas. Et la sécurité aujourd'hui n'est pas une situation qu'on peut quantifier. La sécurité aujourd'hui n'existe pas, nulle part. On se réorganise, on met du temps. Nous sommes en train de recruter 750 policiers. Nous avons estimé qu'il faut avoir des policiers dignes de ce nom.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Dialogue politique en République démocratique du Congo. Le président débute ses consultations aujourd'hui avant la programmation éventuelle d'une table ronde. Joseph Kabila doit s'entretenir avec les représentants des confessions religieuses, les chefs coutumiers, les délégués des partis politiques, de la majorité et de l'opposition. Dans les rues de Kinshasa, certains jugent inopportun ce dialogue à quelques mois des élections. Thierry Kambundi de notre station partenaire Top Congo FM leur a tendu son micro.
Je pense que la démarche est bonne en soi, mais elle tombe en retard du fait que, pour l'instant, les Congolais attendent les élections. Parler dialogue aujourd'hui serait revenir en arrière et nous pensons que ça ne va aboutir à rien puisque déjà l'opposition n'émet pas sur la même longueur d'onde. Il y en a qui sont pour, il y en a d'autres qui refusent. Je suis d'avis que nous allions aux élections, pas au dialogue.
Ça ne sert à rien d'organiser un dialogue parce qu'il y a déjà eu des concertations nationales. Le gouvernement devrait plutôt s'atteler à matérialiser les recommandations issues de ce forum national organisé vers fin 2013. Le gouvernement congolais devrait redoubler d'efforts pour renflouer les caisses de la CENI afin que celle-ci organise les élections provinciales cette année, législatives et les présidentielles l'année prochaine. Le dialogue n'a pas d'importance au stade actuel. Il faut simplement respecter et faire respecter la Constitution. C'est ça notre point de vue.
Il serait mieux de ne plus parler de ces dialogues, qu'on se lance directement pour les élections. Sinon, le fait d'avoir les dialogues, on a peur que les élections n'aient pas lieu ou soit qu'on prolonge le délai des élections.
En Guinée, l'opposition maintient l'annulation du calendrier électoral comme préalable à tout dialogue avec la mouvance présidentielle. Elle demande aussi le gel des activités de la Commission électorale nationale indépendante. Correspondance de Zakaria Camara.
Fodéoussou Fofana, vice-président de l'UFDG de Sidi Alain Diallo, et Baïdi Haribo, secrétaire exécutif de l'UFR de Sidi Touré, ont été désignés samedi porteurs de réponse de l'opposition à la lettre du président Alpha Condé. Sans surprise, l'opposition pose comme condition à sa participation au dialogue l'annulation du chronogramme des élections publiées par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, dont les responsables de l'opposition demandent aussi le gel des activités. Dialogue demandé par les uns et préalable par les autres. Le sujet est commenté dans les rues et cafés de Conakry.
Moi, mon souhait aurait que le président écoute les opposants. Tout ce qui est bon comme solution pour la Guinée, qu'il accepte ça.
L'opposition est obligée de partir à la table de négociation. Il ne doit pas poser de conditions. Il y a eu trop de tracations, il y a eu des morts, des trucs. Pour éviter tout ça là, ils n'ont qu'à laisser les conditions, ils n'ont qu'à aller sur la table de négociation et parler pour sauver les enfants. Il y a eu trop de morts.
Quand on a discuté une première fois et qu'on ne respecte pas ses engagements, une deuxième fois en plus, la troisième fois, je crois que ce serait préférable d'abord d'avoir une garantie avant d'aller à la table du dialogue.
Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
Washington, La Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, un navire humanitaire chargé de vivres pour le Yémen a été visé dimanche par des tirs à son approche du port d'Aden. Sous couvert d'anonymat, un responsable de l'administration provinciale cité par l'AFP accuse les rebelles chiites houthis qui occupent des quartiers d'Aden d'avoir empêché le bateau d'accoster au port de la ville, contrôlé par des combattants pro-gouvernementaux.
L'ONU juge inacceptable les nouveaux raids du régime syrien qui a largué des barils d'explosifs de manière aveugle ce week-end, tuant des dizaines de civils dans le nord du pays. Par ailleurs, dans le centre du pays, le groupe ultra-radical État islamique a progressé vers l'ouest et le sud à partir de la ville antique de Palmyre, prise au régime il y a 10 jours, rapporte l'AFP.
Proche-Orient, un comité ministériel législatif israélien a approuvé dimanche un texte qui permettrait de condamner à des peines allant jusqu'à 10 ans de prison, toute personne jetant des pierres sur des véhicules en mouvement. C'est ce qu'a annoncé la ministre de la Justice citée par l'AFP. À noter que les pierres sont des projectiles courants dans les conflits entre Palestiniens et forces de l'ordre israéliennes.
Sachez aussi que le chef de la diplomatie américaine John Kerry, 71 ans, est attendu lundi dans son pays après s'être cassé la jambe dans une chute de vélo dans les Alpes françaises. Il a dû rester pour la nuit à l'hôpital à Genève.
Le scandale de corruption qui touche la FIFA fait encore beaucoup de vagues en Afrique du Sud. Idriss Fall.
Le président de la Fédération sud-africaine, Danny Jordan, a reconnu hier dans une interview accordée au journal Sunday Independent que son pays avait bien payé 10 millions de dollars en 2008. Cependant, il a assuré que ce n'était pas pour acheter des voix pour l'obtention du Mondial 2010. Visiblement furieux, le ministre des Sports, Filike Mbalula, a presque aussitôt rejeté catégoriquement ce qu'il qualifie de mensonge. Il a même ordonné à tous ceux qui ont participé à la préparation du Mondial 2010 d'éviter de faire des commentaires qui font le jeu de ceux qui veulent ternir l'image de l'Afrique du Sud et de l'Afrique en général. Selon l'acte d'accusation de la justice américaine, Pretoria a versé 10 millions de dollars au Trinidadien Jack Ward, ancien président de la CONCACAF, en échange de 3 voix en faveur de l'Afrique du Sud.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Félix Yepassi Zambrou.
La BAD est dans de bonnes mains, a déclaré le nouveau président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, vendredi à la clôture des 50e assemblée annuelle qui l'ont porté à la tête de l'institution bancaire avec un taux de 58,20%. Cependant, pour l'économiste ivoirien Maurice Sahé, cela doit se traduire dans la réduction de la pauvreté sur le continent.
La misère est grandissante, la pauvreté a bondi de plusieurs parts en Afrique. Il vaudrait mieux peut-être combattre la pauvreté. Mais combattre la pauvreté, c'est aujourd'hui le langage du Fonds monétaire et de la Banque mondiale à travers l'initiative PPTE. Si c'est la même chose, je crains fort qu'il n'y ait pas d'aménagement substantiel.
L'Afrique du Sud a allégé vendredi, 48 heures avant leur entrée en vigueur, les modalités d'application des nouvelles règles draconiennes de contrôle aux frontières des mineurs, source de graves inquiétudes dans le monde du tourisme. Les compagnies aériennes s'inquiètent notamment d'avoir à supporter des coûts de rapatriement pour des voyageurs qui ne seraient pas en règle. Ceux de 37 pays ont soumis à l'ONU leurs engagements chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui doivent permettre de limiter à 2 degrés Celsius le réchauffement climatique. Une deuxième salve d'engagement est espérée en juin, une autre en septembre, en tout cas avant le 31 octobre, c'est-à-dire un mois avant l'ouverture de la grande conférence sur le climat à Paris.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Félix. Plein feu sur les stades, les sports avec Élisée Oumpatine. Bonjour Élisée.
Bonjour Morgane.
Football, le deuxième tour retour des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans et le Cameroun éliminé.
C'est suite au match nul, un but partout, concédé à domicile, que le Cameroun a été éliminé par la Sierra Leone 0-0 à l'aller. Battu par l'Ouganda, le Rwanda passe également à la trappe. De même pour le Ghana, sorti par le Congo Brazza au tir au but 5-4, 1-1 sur l'ensemble des deux matchs. Ça passe en revanche pour le Mali, succès 3-1 face à la Mauritanie à Bamako. À l'aller, les deux équipes s'étaient séparées sur un nul, un partout. Qualification également pour la Tunisie aux dépens du Soudan, du Zimbabwe et de la Zambie. Au prochain tour, on aura des affiches comme Congo, Nigeria, Mali, Gabon, Zambie, Côte d'Ivoire, Tunisie, Maroc, Sierra Leone, Algérie, Ouganda, Égypte et puis Zimbabwe, Afrique du Sud.
On enchaîne avec la COSAFA Cup. La Namibie remporte la compétition.
Et c'est par le score de 2-0, un doublé de César Machava, que cette sélection namibienne a battu celle de Mozambique en finale jouée en Afrique du Sud. La Namibie succède ainsi à la Zambie en match de classement. Madagascar a battu le Botswana 2-1 et prend la troisième place.
Mondial des moins de 20 ans, la compétition a démarré samedi dernier et les représentants africains ont connu des fortunes diverses.
D'abord, le Mali qui réalise une belle performance en battant le Mexique 2-0. Un peu moins pour le Ghana, contraint au match nul 1-1 par l'Autriche. Par contre, le Sénégal qui passe complètement à côté pour sa première en s'inclinant lourdement face au Portugal 3-0. De même pour le Nigeria qui vient d'être battu par le Brésil 4-2. Les jeunes Nigériens menaient pourtant au score 2-1. En ouverture de cette compétition, le pays hôte, la Nouvelle-Zélande, a fait jeu égal devant l'Ukraine 0-0. De même pour l'Argentine, le plus titré dans cette catégorie face au Panama. Victoire des États-Unis 2-1 contre Myanmar et la Colombie 1-0 face au Qatar. Et puis l'Allemagne a complètement déroulé devant Fidji 8-1.
Direction l'Europe avec un week-end de coupe dans les 5 grands championnats.
Exactement Morgan, puisque en France, le Paris Saint-Germain s'offre la coupe nationale en venant à bout de l'AJ Auxerre 1-0 grâce à Edinson Cavani. Une saison pleine pour le club de la capitale française qui vient de remporter 4 titres. Doublé par contre pour le FC Barcelone en Espagne. Après la Liga, les Catalans remportent la Coupe du Roi en battant en finale l'Atlético Bilbao 3-1, doublé de Messi au passage. En Angleterre, Arsenal garde son précieux en venant à bout d'Aston Villa 4-0. Et puis saison blanche pour le Borussia Dortmund en Allemagne. Le club de la roue, décevant cette saison, a perdu la Coupe d'Allemagne en s'inclinant en finale face à Wolfsburg 3-1, ce malgré l'ouverture du score de Pierre-Emerick Aubameyang.
Et la suite du tournoi de Toulon, Une belle affiche au programme aujourd'hui.
Les deux équipes s'affrontent pour une place au second tour. Le Maroc, bien placé après sa nette victoire face à la Chine 3-0, peut se contenter d'un nul face à une sélection ivoirienne qui a besoin d'une victoire après son faux pas face à l'Angleterre 2-1. À noter que hier, dans le groupe A, le Costa Rica a battu les États-Unis 2-1 et une nette victoire des Pays-Bas 5-1 face au Qatar.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission. Réunis en sommet ce dimanche à Dar es Salaam en Tanzanie, les chefs d'État des pays d'Afrique de l'Est ont demandé un report des élections burundaises d'au moins un mois et demi. Le sommet ne s'est pas prononcé sur la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. Idriss Fall a recueilli la réaction de Juliette Nijimbere du collectif des femmes pour la paix et la démocratie au Burundi.
Six semaines, c'est trop peu pour pouvoir organiser des élections les plus démocratiques possibles et les plus inclusives possibles, parce que nous, le collectif, on demande que les femmes soient bien représentées et on remarque que les femmes n'ont jamais eu la place au Burundi, bien qu'elles soient bien préparées pour faire partie de ces élections. Et 6 semaines pour pouvoir désarmer les Imbonerakure depuis l'accession au pouvoir de M. Nkurunziza, il a armé la jeunesse du CNDD-FDD. Et 6 semaines, pour nous, c'est trop peu. On aimerait bien demander que le report soit encore plus prolongé et qu'on ait le temps de préparer tout le monde, tous les partis politiques. Je pense que même les partis politiques d'opposition n'ont pas eu le temps de préparer leur campagne parce qu'ils étaient tous concentrés sur cette candidature de Pierre Nkurunziza. Et pour nous, le collectif, ce n'est pas suffisant.
Les chefs d'État n'ont pas du tout abordé la question brûlante du troisième mandat de Pierre Nkurunziza.
C'est encore pire. S'ils n'ont rien dit à propos de son troisième mandat, ça veut dire qu'il peut se représenter. C'est après les 6 semaines. Or, nous, on demande que la constitution burundaise, les accords d'Arusha qui ont occupé tellement de monde et qui ont amené la paix au Burundi, puissent être respectés. Et les États d'Afrique de l'Est, je ne comprends pas pourquoi les chefs d'État n'ont pas parlé de ce troisième mandat, alors que c'est celui qui occupe les cœurs des Burundais actuellement, qui sont dans les rues, qui manifestent depuis plus d'un mois. Et ils ne demandent qu'une chose, que Nkurunziza renonce à sa troisième candidature et qu'il y ait un report des élections, un gouvernement de transition. Et nous, nous demandons la même chose. Et que ce gouvernement de transition soit formé par des personnes qui ne vont pas se faire élire dans les prochaines élections. Et Nkurunziza lui-même ne doit pas faire partie de ce gouvernement de transition.
Dans ce sens, vous avez écrit une lettre au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Qu'est-ce que vous attendez de l'ONU alors?
Nous attendons que l'ONU fasse appliquer les accords d'Arusha comme ils ont été signés, que Nkurunziza ne brigue pas un troisième mandat, qu'il renonce à sa candidature et qu'on reporte les élections à une date ultérieure, bien évidemment qui sera déterminée par les Burundais, parce que les Burundais savent comment ils pourront s'organiser en fonction des échéances et que les chefs d'État africains de l'Est ne savent pas ce que les Burundais vivent actuellement. Ce sont les Burundais qui savent ce qu'ils sont en train de vivre et ce sont les Burundais qui peuvent vraiment donner un agenda correct. Et que donc tout le monde se mette autour de la table et détermine les dates qui soient correctes pour tout le monde.
Juliette Nijimbere du collectif des femmes pour la paix et la démocratie au Burundi. Et nous partons maintenant au Burkina Faso, où l'on a rendu hommage samedi aux martyrs tombés lors de l'insurrection populaire qui a mis fin au pouvoir de Blaise Compaoré. 28 hommes et femmes désormais considérés héros de la nation, alors que les blessés, eux, attendent que justice leur soit rendue. De Ouagadougou, le reportage de Zoumana Ouanogo.
C'est avec une voix pleine de spleen que le premier ministre Yacouba Isaac Zida a lu un à un les noms des 28 martyrs tombés lors de l'insurrection. Comme il fallait s'y attendre, cela a réveillé des mauvais souvenirs. Lydia Karambiri, veuve d'un martyr.
C'est douloureux. Aujourd'hui, ils ont réveillé encore la plaie. Quelqu'un qui ne vit plus ici, au Burkina, qui est venu pour nous rendre visite. Vous voyez comment ça fait. Qui vient, on est content, tout. Et à 2 jours de son départ, on vient me dire qu'il est décédé. Mais comme ils se sont souvenus de nous, Dieu merci, on espère que bon, ils ne vont pas nous oublier ici. Ils vont passer de temps en temps nous rendre visite, nous remonter le moral. C'est tout ce qu'on les demande.
Pour le porte-parole de l'Association des familles des martyrs, il faut que justice leur soit rendue. Suivant le porte-parole, Babou Bamouni.
Excellences, Monsieur le Président du Faso, l'hommage rendu à présent aux personnes qui ont perdu la vie lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 aura un goût d'inachevé. Si seulement il se résume en une séance publique et collective de lamentation sans prendre l'engagement ferme de leur rendre justice.
La requête des familles des martyrs a été prise en compte par le président de la transition, suivant les engagements pris par le président Michel Kafando.
Nous prenons l'engagement d'instituer une journée du souvenir qui vous sera désormais annuellement consacrée. L'État aussi poursuivra ses efforts afin de faire toute la lumière sur les conséquences de cette insurrection. Et croyez-moi, justice sera rendue.
À côté des martyrs, il y a aussi les blessés de l'insurrection. Ils ont été, certes, associés à l'hommage, mais certains sont dans le désespoir. Écoutons l'histoire de Sana Grégoire.
Voilà, on est blessé. Au lieu de donner maman 100 francs, c'est toi qui vas demander maman 100 francs maintenant.
Je suis très malade, ça va pas. J'ai la hanche sortie. Comme il y a la journée nationale des martyrs là. En attendant la justice, il faut qu'on nous aide. On est devenus des handicapés. À cette époque-là, si quelqu'un ne me donne pas, je ne peux pas travailler. J'ai besoin d'aide pour tout côté financier, c'est matériel. Avant là, je me débrouillais, mais actuellement là, si quelqu'un ne me donne pas, je ne peux pas faire un travail.
Zoumana Ouanogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Au Bénin, seules 3 jeunes filles sur 40 intégrant une école primaire ont la chance de terminer leur cycle scolaire. Un triste ratio partiellement attribué aux grossesses non désirées, d'où la nécessité d'intensifier l'éducation sexuelle des jeunes filles. Correspondance de Peggy Ludovic Tegpa.
J'avais une petite amie, bon, j'entendais souvent parler du sexe, donc je me suis dit, ah, pourquoi ne pas aller découvrir ce que c'était.
C'était une belle expérience.
On peut dire.
Je suis tombée enceinte à l'âge de 16 ans. Je n'ai pas pris beaucoup de conseils de mes parents sur le sexe.
Faire une relation sans le sexe, je ne pense pas que ça pourra vraiment marcher. Si on doit faire une relation sans sexe, c'est que je ne serai pas sérieux avec elle. Donc je dois la tromper avec d'autres. Et celle avec qui je dois la tromper, c'est pour faire des trucs concernant le sexe, mais avec elle.
C'est là un échantillon illustratif des mobiles et conséquences de la ruée des jeunes lycéens béninois vers le sexe. Un comportement déviant dont les causes proviennent des habitudes importées via les médias. Selon Martin Luther Adéromont, enseignant de sciences de vie et de la terre dans l'un des collèges de Cotonou.
Aujourd'hui, les élèves vont très rapidement au sexe. Et un facteur favorisant cet état de choses, c'est que avec l'Internet, avec la télévision et les films pornographiques, les journaux, certains sont tentés d'expérimenter cela. Je crois qu'il faut mettre l'accent sur l'éducation sexuelle. Il est vrai que dans ma matière en SVT, on profite des situations d'apprentissage pour leur donner des conseils, mais je crois que ce n'est pas suffisant.
L'éducation sexuelle est donc la seule solution qui pourra éviter aux jeunes des conséquences désastreuses pour toute leur vie. Mais il faudra s'y prendre très tôt, selon Zenaïde Adjentosa, assistante sociale.
L'éducation sexuelle est nécessaire pour tout enfant. Les gens pensent qu'il faut être adulte avant d'être éduqué sexuellement. Non, pour tout enfant, déjà à l'âge de 6 ans, il faut commencer par éduquer l'enfant sexuellement. Parce que quand l'enfant atteint l'âge de 6 ans, sa curiosité est très poussée. Il commence par poser des questions, des petites caresses, des bisous. Quand l'enfant regarde la télé, regarde les grandes personnes, tout ce qu'on fait et qui touche la sexualité, l'enfant est intéressé. Alors, il ne faut pas cacher la vérité à l'enfant. On doit trouver les thèmes dans lesquels il faut expliquer ce que c'est que la sexualité. C'était à l'enfant, que l'enfant comprenne.
Ce vœu se réalisera difficilement au Bénin, car ici, les questions liées au sexe sont encore tabous. Et l'État béninois a commencé déjà par jouer sa partition, mais devra opérer des réformes pour des résultats plus probants. Zenaïde Adjentosa.
C'est déjà bon que l'État implique l'éducation sexuelle dans le programme scolaire, mais quand on va jusqu'en troisième d'abord, avant de connaître le cycle mensuel, tout ça, c'est trop tard. Puisque en cinquième, sixième, même au CM2, les filles sont déjà filles. Pourquoi ne pas commencer l'éducation sexuelle au CM1 et au CM2? Il faut commencer tôt. Parce que ce n'est pas quand l'enfant entend parler de sexe tôt qu'elle passe au sexe tôt.
Grossesse non désirée, déscolarisation des filles, contamination des maladies sexuellement transmissibles sont autant de périls que peut éviter l'éducation sexuelle chez les jeunes. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Le Niger, à l'heure du budget participatif, tenant compte des besoins d'investissement exprimés par la population elle-même, c'est une initiative de la société civile œuvrant pour la transparence et la bonne gouvernance. Des responsables communaux, des élus locaux et des acteurs du développement ont ainsi été introduits au processus d'élaboration du budget participatif. Reportage à Niamey de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Ce sera peut-être un début de solution aux nombreuses difficultés que rencontrent les municipalités dans la mobilisation des ressources, notamment, estime Ali Idrissa, le coordonnateur du réseau nigérien des organisations pour l'analyse et la transparence budgétaire rotable, initiateur de la formation sur le processus d'élaboration d'un budget participatif.
L'objectif assigné à cette rencontre est que en 2016, nous puissions dire que Torodi est une ville qui met en œuvre le budget participatif. Et le budget participatif, vous savez, ses avantages, c'est que ça met le citoyen au cœur de la décision, au cœur de la gouvernance. Ça met le citoyen en confiance avec les élus. Il y a un dialogue permanent qui s'instaure. Et ça a des avantages aussi pour les autorités. Notamment, c'est aussi une manière de lutter contre l'incivisme fiscal. Quand le citoyen est en confiance, quand il sait où va son argent, il est toujours prompt à contribuer, à payer ses impôts par rapport à celui qui n'est au courant de rien.
Pour cette phase pilote, le Rotab et son partenaire SwissAid ont choisi 5 communes, dont Torodi, située à une vingtaine de kilomètres de Niamey. Ici, l'initiative est bien accueillie par le premier responsable d'abord, Ali Mamoudou, maire de la commune de Torodi.
C'est quelque chose que nous avons tant souhaité et c'est maintenant que c'est venu. Nous l'avons tant attendu. Les avantages du budget participatif sont incalculables parce que le budget que nous avons l'habitude de faire, les populations, c'est-à-dire les contribuables, n'en connaissent pratiquement rien de ça. Parce que c'est un budget qui est fait entre les conseillers et les services techniques de la commune. Or, le budget participatif, c'est un budget qui est fait par les contribuables eux-mêmes. Ce sont eux qui vont discuter des recettes et des dépenses. Ils savent l'origine des recettes et ces recettes-là sont destinées à où ?
Initiative louée également par les acteurs locaux de la société civile. Hassan Moussa.
Personnellement, en tant qu'acteur de développement, j'ai trouvé que c'est une très 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 belle initiative d'initier une telle formation à l'endroit donc des acteurs locaux. Le budget participatif tel que ça a été montré, la finalité en tout cas, c'est de parvenir à élaborer un budget qui reflète vraiment les profondes inspirations de toute la population communale. Et en cela, vraiment, c'est très 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 souhaitable, c'est très louable.
Le Niger compte environ 265 communes dans lesquelles il est régulièrement fait cas de détournement du denier public de la part des responsables chargés de la gestion des différents budgets des municipalités. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
La mise en onde était assurée par Anne Albertson, Morgane Guiriec à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.